Europe 1.
Europe Soir, le débat. Frédéric Taddeï.
Bonsoir, bienvenue dans le débat d'Europe Soir. Il y a quelques mois, le parquet de Pontoise avait poursuivi pour atteinte sexuelle et non pour viol un homme de 28 ans ayant eu des relations sexuelles avec une mineure de 11 ans. Et la cour d'assises de Meaux avait acquitté un homme accusé de viol sur une autre mineure de 11 ans. Deux décisions qui avaient jeté le trouble dans l'opinion publique. Le gouvernement avait aussitôt annoncé un projet de loi et celui-ci sera présenté le 7 mars par Marlène Schiappa et Nicole Belloubet, un projet de loi qui vise à instaurer un âge minimal de consentement à un acte sexuel en dessous duquel il ne pourrait y avoir de consentement, il y aurait donc forcément viol. Mais le groupe de travail du Sénat sur la question est contre, il juge cela brutal et arbitraire, car cet âge minimal, je cite, ne permettrait pas de prendre en compte la diversité des situations. Alors pour en débattre, nous avons invité Laurence Rossignol, qui fut ministre des Familles, de l'Enfance et des Droits des Femmes sous François Hollande, qui est aujourd'hui sénatrice socialiste de l'Oise. Laurence Rossignol, vous avez participé au groupe de travail du Sénat sur les violences sexuelles sur mineurs qui s'oppose à la proposition du gouvernement. Est-ce que vous pouvez nous résumer? On aura le temps d'en discuter ensuite, mais juste nous résumer pourquoi.
Bonsoir. D'abord, le groupe de travail n'a pas décidé de s'opposer à la proposition du gouvernement. Le groupe de travail s'est saisi à la suite des deux affaires que vous évoquez, qui montrent d'ailleurs la complexité du sujet, parce que dans un cas, le parquet a Pontoise avait choisi l'incrimination d'atteinte sexuelle. Dans l'autre cas, on choisit le viol et les assises. Dans le premier cas, il y a une condamnation pour atteinte sexuelle. Dans le deuxième cas, il y a un acquittement. Donc, il suffit pas de choisir la bonne qualification pour être sûr d'avoir la condamnation qu'on espère. Mais le groupe de travail du Sénat, effectivement, s'est mis en place dès le mois d'octobre et a décidé de travailler sur la prévention et la meilleure protection des mineurs victimes de violences sexuelles. Et de ce fait, on a effectivement travaillé sur l'âge du consentement. Moi-même, j'étais, je dois dire, au départ favorable à la fixation d'un âge couperet de consentement. Le Haut Conseil à l'égalité femmes-hommes avait choisi l'âge de 13 ans. Il y a des associations qui demandent 15 ans. L'atteinte sexuelle, c'est 15 ans. Donc, par esprit de coordination, je pensais que c'était 15 ans. Et puis, après des dizaines d'heures d'auditions, de rencontres, nous sommes arrivés à la conclusion que peut-être l'âge de présomption irréfragable d'un viol pour une relation entre un majeur et un ou une mineure n'était pas la bonne façon d'atteindre notre objectif. Et nous avons travaillé autour de l'idée d'une présomption de contraintes lorsque il s'agit d'une relation sexuelle entre un majeur et un mineur. Je vais dire un tout le temps, mais ça suppose une aussi, voilà. Mais pour gagner du temps, aller à l'antenne. Et donc présomption de contraintes, cette contrainte découlant à la fois de l'écart d'âge et de l'absence de discernement. Ce qui fait que si on reprend les deux affaires que vous évoquiez, on peut penser qu'avec la présomption de contrainte qui se déduit de l'écart d'âge, dans les deux cas, il y aurait eu présomption de viol pour les deux auteurs de ces relations sexuelles.
Pascal Cussig, vous êtes avocat à la Cour, président de Coup de Pouce Protection de l'Enfance. Vous militez depuis quelque temps déjà pour qu'il y ait un âge minimal de consentement à un acte sexuel. En dessous de cet âge, ce serait forcément un viol. Pour vous, ce serait quel âge et pourquoi faut-il cet âge minimal à votre avis?
Alors, bonsoir. Effectivement, nous considérons qu'il faut absolument cette réforme d'instauration d'une présomption d'absence de consentement. Comme l'a dit Madame Rossignol tout à l'heure, on se rend compte que dans les affaires de Pontoise et de Meaux, on a deux réponses différentes. Nous considérons qu'on doit poser un interdit de société qui est qu'on n'a pas le droit d'avoir un acte sexuel avec un enfant en dessous. Alors nous proposons 13 ans pour une présomption irréfragable et entre 13 et 15 ans une présomption simple, c'est-à-dire où il y aurait une preuve contraire qui pourrait être apportée. Nous estimons que c'est absolument indispensable pour éviter ces désastres que sont les affaires de Meaux et de Pontoise, et j'avoue que j'ai été extrêmement déçu des conclusions du groupe de travail du Sénat. Il me semble que cela montre que la prise de conscience a encore du chemin à faire, puisque si on en croit les résultats de ce travail du groupe de travail du Sénat, ce qu'il préconise, en fait, c'est un statu quo, puisque la présomption de contrainte qui résulterait de la différence d'âge, c'est déjà dans le code pénal. Donc, grosso modo, aujourd'hui, ce qui est préconisé, c'est un statu quo. Or, c'est exactement ce que nous ne voulons pas. Nous voulons que, à l'instar de la quasi-totalité de nos voisins européens, on affirme le principe qu'on ne peut pas avoir un acte sexuel avec un enfant.
Katia Jubreuil, vous êtes présidente du syndicat de la magistrature. Vous êtes opposée à l'instauration d'un seuil d'âge minimal en dessous duquel il y aurait forcément viol. Pourquoi, si vous pouvez nous le résumer?
Oui, bonsoir. Alors, on a effectivement fait part de notre opposition à ce projet lorsqu'on a été entendu d'ailleurs par le groupe de travail du Sénat. Et on est tout à fait satisfait de voir que nos arguments peut-être ont pu porter. Nous, on pense que l'interdit, il existe déjà. L'interdit dont vous parliez à l'instant existe déjà dans la loi puisqu'il y a une infraction d'atteinte sexuelle dans laquelle on se pose pas la question de savoir s'il y a un consentement ou non. Le mineur de moins de 15 ans, s'il y a des actes sexuels commis sur lui par un majeur de plus de 18 ans, c'est une infraction punie de 5 ans d'emprisonnement. Et on estime que vouloir ensuite poser une présomption automatique comme quoi il y aurait viol, c'est-à-dire une infraction pour le coup punie de 20 ans de réclusion criminelle, c'est vouloir automatiser une réponse qui ne peut pas être automatisée. Pour plusieurs raisons, et notamment parce que déjà, pour pouvoir fixer ce fameux âge en dessous duquel on ne saurait pas consentir, on n'a pas d'accord, il n'y a pas de compromis, enfin il n'y a pas d'entente là-dessus. 13 ans, 14 ans, 15 ans, en réalité, ça ne colle pas à la réalité. On voudrait qu'une réalité juridique existe qui ne colle pas à la réalité de la vie. Et puis, ça poserait aussi la question d'automatiser une réponse pénale à des faits très graves de viol, en considérant qu'on peut se passer de se poser la question de quelle était l'intention de l'auteur, c'est-à-dire est-ce qu'il avait conscience d'exercer une contrainte sur une victime pour commettre un acte sexuel. Cette question-là, on l'évacue totalement et on se pose plus la question et on estime qu'une affaire, des faits aussi graves que des faits de viol pourraient être automatiquement caractérisés, ce qui pose un problème que d'ailleurs le Conseil constitutionnel, en notre sens, ne manquerait pas de soulever. Donc on estime que c'est pas le vrai terrain de la question de la meilleure répression des infractions sexuelles, c'est celui de la preuve. Il faut faire en sorte qu'on puisse recueillir des preuves qui permettent d'entrer en voie de condamnation à la fin du processus, et c'est là-dessus qu'on doit travailler, c'est pas par une automatisation de la réponse pénale.
Marie-France Casalis, vous êtes porte-parole du collectif féministe contre le viol, membre du Haut Conseil pour l'égalité entre les femmes et les hommes, qui est favorable à l'instauration d'un âge minimum, celui de 13 ans. Pourquoi 13 ans ?
Il y a eu un long débat sur l'âge. C'est déjà un progrès que d'aborder ces questions-là. Collectif féministe contre le viol, nous avons ouvert une permanence téléphonique il y a maintenant plus de 30 ans. Et dans nos appels, 62% de nos appels concernent des personnes aujourd'hui majeures qui relatent des faits qu'elles ont subies dans leur minorité. Et on voit à quel point il leur a été difficile d'être entendues à la juste valeur des actes qu'elles ont pu subir. Donc, oui, 13 ans, parce que on avait considéré au Haut Conseil que entre 13 ans et 18 ans, il y avait un écart d'âge suffisant pour évaluer la pression que peut exercer un majeur. Oui, on était content aussi quand on a vu que d'autres ont proposé 15 ans. Ça a été un long débat sur le 13 ou 15. Hein. Ça a été un long débat.
Et il n'est pas fini d'ailleurs, hein, puisque
voilà,
débat...
Au Haut Conseil, il a été terminé de cette façon-là, mais il n'est pas fini dans la société. C'est vraiment une très bonne nouvelle que le groupe de travail du Sénat se soit appliqué à réfléchir à quelle est la meilleure procédure pour protéger les enfants des actes de majeurs dangereux.
Eh bien, on va commencer ce débat, mais juste après une pause.
Europe Soir, le débat. Frédéric Taddeï.
Sur les relations sexuelles entre majeurs et mineurs en France, on croit que le code pénal est clair. On croit en général que la majorité sexuelle est à 15 ans. Au-dessus de 15 ans, on peut consentir à un acte sexuel, même avec un majeur, sauf s'il y a autorité, parents, profs, moniteurs, etc., etc. Là, on sait bien qu'on considère qu'il peut y avoir contrainte. En dessous de 15 ans, en revanche, il n'y aurait pas de consentement possible. Il y aurait forcément viol. C'est pour cela que beaucoup de gens n'ont pas compris ce qui se passait à Pontoise, où à mots. Or, en France, en réalité, il n'y a pas de seuil de présomption de non-consentement. Il n'y a pas d'âge minimal au-dessous duquel on ne peut pas consentir, Karine Dubreuil.
Oui, en effet, la loi pose un interdit qui évacue la question du consentement, qui est celui des actes sexuels commis sur des mineurs de moins de 15 ans par des auteurs majeurs. La loi punit de 5 ans d'emprisonnement tout acte sexuel, indépendamment de savoir si le mineur était consentant ou pas. Ça, c'est l'atteinte sexuelle. Et ensuite, on a les infractions d'agression sexuelle et de viol qui, eux, supposent qu'il y ait une contrainte ou une surprise ou une violence ou une menace exercée par l'auteur pour aller au-delà de du défaut de consentement de la victime. Et concernant ces infractions de viol, il y a aussi une protection particulière des mineurs qui s'exerce, parce que déjà, cette loi sur l'atteinte sexuelle pose quand même un interdit qui montre que le mineur ne peut pas être vu comme n'importe quel individu au regard des relations sexuelles. Et la jurisprudence tient compte, évidemment, de la situation de minorité dans des affaires de viol ou d'agression sexuelle pour considérer que si le consentement du mineur n'était pas entièrement éclairé, il peut retenir la contrainte morale ou la surprise pour dire qu'il y a bien eu viol. Mais simplement, c'est une appréciation qui se fait au cas par cas. Et donc, il est impropre de parler en réalité de majorité sexuelle, parce que les mineurs ont le droit d'avoir des relations sexuelles, et notamment entre mineurs. Par contre, ce qui est vrai, c'est que les mineurs sont considérés comme des personnes qu'il faut protéger particulièrement parce qu'ils n'ont pas la même maturité que tout un chacun. Et la jurisprudence en tient compte, puisque les juges, lorsqu'ils regardent des faits de viol ou d'agression sexuelle, des plaintes, ils vont retenir que le mineur, en dessous d'un certain âge, ne peut pas valablement consentir. La question, c'est quel âge ? Et si on faisait ce seuil, et finalement, on dirait qu'en dessous de tel âge, pour tout mineur,
il y aurait viol.
Ce qui est le cas
en Espagne ou aux États-Unis, c'est 12 ans.
En réalité, on parle beaucoup de ces seuils dans les autres pays, notamment européens. C'est un petit peu aller vite, parce que évidemment, c'est un peu plus complexe que ça. Il y a des seuils dans certains pays qui sont comme le nôtre, c'est-à-dire qu'il y a une infraction prévue pour des mineurs de moins de tel âge, comme nous, l'atteinte sexuelle, pour lesquels on dit on n'a pas besoin de se poser la question du consentement ou pas, c'est une infraction. Mais ça ne veut pas dire que dans tous ces pays-là, et contrairement à ce qu'on a beaucoup entendu ces derniers temps, on considère que les faits sont des viols. Les viols, le viol, encore une fois, ça a une définition bien précise, c'est une absence de consentement d'une victime et un auteur qui le sait et qui commet quand même un acte sexuel.
Alors, pourquoi est-ce qu'il faut changer cette loi, Pascal Cussig, puisque vous le réclamez depuis longtemps pour...
Oui. Effectivement, on débat là sur le terrain de la preuve, comme l'a dit Madame Dubreuil, mais ce régime qu'elle a décrit de l'atteinte sexuelle de l'article 227-25 du Code pénal est, selon nous, une abomination et un non-sens. C'est-à-dire que quand on lit cet article, on se rend compte qu'il renvoie à l'hypothèse où le mineur serait consentant. C'est-à-dire, ou en absence de contrainte, de menace, de violence ou de surprise. Donc cet article valide l'hypothèse qu'un enfant pourrait consentir à un acte sexuel sans faire aucune précision de l'âge. C'est-à-dire que cet article de l'atteinte sexuelle pourrait s'appliquer à un enfant de 3 ans. Cet article, c'est dans ce sens-là que je dis que c'est une abomination et que ce n'est pas du tout satisfaisant et que ce n'est pas du tout une réponse qui peut satisfaire qui que ce soit, puisque vous avez, dans ce cas de figure, lorsqu'il y a des poursuites pour atteinte sexuelle, vous avez de vraies conséquences juridiques sur le régime qui est applicable. C'est-à-dire que la peine encourue par l'agresseur va être divisée par 4, là où il encourt 20 ans de réclusion en cas de viol sur mineur, il ne va plus encourir que 5 ans. Vous avez une affaire qui sera automatiquement jugé par un tribunal correctionnel, c'est-à-dire grosso modo en 2 heures de temps, là où une cour d'assises va y passer 2 ou 3 jours, et on voudrait nous faire croire que le tribunal correctionnel peut faire en 10 fois moins de temps ce que la cour d'assises met 2 jours ou 3 jours à faire. Donc tout ça, c'est sacrifier l'intérêt de la victime. Ce régime de l'atteinte sexuelle, c'est un non-sens. C'est un non-sens et nous demandons qu'il soit abrogé par ce principe d'absence de consentement.
Laurence Rollet de Signal.
Je vous demandais que le régime d'atteinte sexuelle soit abrogé et qu'il soit remplacé par la présomption de non-consentement.
Exactement.
Qui s'appliquerait donc de manière... une présomption irréfragable qui s'appliquerait dans tous les cas pour tous les mineurs, en dessous de 15 ans.
Non, nous préconisons irréfragable jusqu'à 13 ans et une présomption simple entre 13 et 15 ans. C'est-à-dire qu'on ne se poserait jamais la question du consentement du mineur en dessous de 13 ans. Et je précise,
en dessous de 13 ans, il n'y aurait pas de consentement.
Il n'y aurait pas de consentement possible et on n'aurait pas à se poser la question.
Mais entre 13 et 15, il ne s'agit pas
d'automatiser une réponse pénale, contrairement à ce qui a été dit tout à l'heure.
Qu'est-ce qui se passe entre 13 et 15 ans, si on n'arrive pas à prouver l'absence de consentement, ça veut dire qu'il n'y a aucune infraction, alors qu'actuellement, il y a quand même une infraction.
Présomption simple. Ça veut dire qu'on va présumer... que l'enfant n'est pas consentant.
On présume, mais si finalement, à la fin, les preuves ne sont pas suffisantes, ça veut dire qu'on n'a pas d'infraction.
Si l'agresseur arrive à établir qu'il n'y avait pas contrainte, on en revient à la difficulté actuelle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui...
Oui, on se retrouve...
Aujourd'hui, va être poursuivi
pour atteinte sexuelle.
Et qu'on est passible d'une peine qui va jusqu'à 5 ans. Donc, vous renvoyez sur les... Ce que vous proposez, c'est de renvoyer pour la tranche d'âge 13-15 ans, en fait, au viol. Il n'y a plus d'atteinte sexuelle. Il n'y a plus
que le viol. Il n'y aurait plus d'atteinte sexuelle parce qu'il n'y aurait plus de consentement possible du mineur de moins de 13 ans.
Non, mais
il
faut rappeler... moins de 13 ans, j'ai compris. Mais c'est entre 13 et 15 que vous proposez.
Une présomption simple, c'est-à-dire inverser la charge de la preuve. Au lieu que ça soit à la victime ou à l'accusation d'aller démontrer la contrainte, ça serait à l'accusé d'aller démontrer l'absence de contrainte. Et ça change tout. Parce que cette inversion de la charge de la preuve, on sait bien qu'à partir du moment où la preuve de la contrainte est difficile à établir, et c'est particulièrement le cas dans ce cas de figure, il est essentiel de savoir qui a la charge de la preuve.
Je mesure ce que veut dire une présomption et le renversement de la charge de la preuve, puisque dans la proposition qui est faite par le groupe de travail du Sénat, c'est ce qui a été retenu. C'est-à-dire que de déduire soit de l'écart d'âge, soit de l'absence de discernement de la victime, une présomption de viol. Voilà,
ce qui est déjà dans la loi, il est indiqué dans la loi que la contrainte peut résulter de la différence
d'âge.
Elle
peut résulter. Là, on ne dirait pas qu'elle peut résulter, on dirait qu'elle résulte.
Ça serait une présomption.
Et par ailleurs, dans la loi actuelle, c'est cumulatif avec une autorité, je crois.
Non, puisque la Cour de cassation a dit que c'était interprétatif et que.
Voilà. D'accord.
Jusqu'à présent, qu'on comprenne bien que ce soit la Cour de cassation, on veut juger cas par cas en France. Ce serait ça notre spécificité. Et vous pensez qu'il faudrait qu'il y ait des cas où ce soit plus automatisé.
Exactement. Nous sommes pour l'inverse du cas par cas. C'est-à-dire que l'office du juge, c'est d'apprécier la réponse pénale. C'est d'apprécier en fonction de la situation la bonne réponse pénale et la bonne sanction. Par contre, la définition des infractions, le fait de poser des interdits de société fondamentaux, c'est du ressort de la loi. C'est pas du ressort du juge. Poser un interdit fondamental, c'est la loi.
Et ça serait,
il n'existe pas.
En revanche, ce que vous voulez, c'est la loi exprime, c'est qu'aucun mineur de moins d'un certain âge ne pourrait valablement consentir. Et aussi que tout auteur majeur, forcément, devrait savoir quel âge a la victime, etc., sans aucune considération.
Il le voit.
Laurence Rossignol.
Oui, mais moi je pense qu'effectivement il y a un interdit à poser, ça c'est vrai.
Il existe,
mais il est tout à fait choquant et plus que choquant. On n'arrive pas à se représenter l'idée qu'il puisse y avoir un consentement, un rapport sexuel pour un mineur de moins de 13 ans avec un majeur. Le simple fait qu'on discute de ce consentement n'est pas acceptable.
Et pourtant, c'est ce qu'on a fait, on sait ce qu'on fait dans les tribunaux aujourd'hui.
En fait, l'interprétation de la décision des décisions que vous avez citées à Pontoise et à Melun, elle est faite d'une manière qui ne prend pas en considération l'ensemble des éléments qui ont pu se produire lors de ces décisions de justice. C'est-à-dire qu'on a dit la justice a dit que les victimes étaient consentantes. C'est pas ça que la justice a dit.
Elle a dit qu'il y avait ni violence, ni contrainte, ni menace, ni surprise.
Non, elle a dit qu'il y avait pas suffisamment de preuves pour pouvoir condamner pour ça. Et la preuve, c'est pas seulement que la victime n'était pas consentante, c'est aussi que l'auteur pouvait en avoir conscience. Et en fonction des éléments de chaque affaire, de la relation qui s'est nouée entre le mis en cause et la plaignante ou la victime, du fait que la maturité physique, la maturité psychique à chaque cas, parfois, il n'est pas forcément évident de rapporter la preuve que l'auteur pouvait savoir qu'il s'agissait d'une mineure de tel âge et qu'elle ne pouvait pas valablement consentir à l'acte sexuel. Donc, dire, c'est infamant finalement pour la victime à chaque fois de dire la justice a dit elle était consentante. On interprète jamais les décisions de justice sur le terrain de la preuve, on les interprète en considérant qu'une vérité judiciaire, c'est une vérité tout court. Et c'est ça qui pose un problème.
On continue d'en débattre juste après une parenthèse.
Europe Soir, le débat. Frédéric Taddeï sur Europe 1.
D'un côté, il y a ceux qui voudraient instaurer un âge minimal de consentement à un acte sexuel, en dessous duquel il y aurait forcément viol. C'est le cas du gouvernement ou du Haut Conseil pour l'égalité entre les hommes et les femmes. Et puis il y a ceux qui ne veulent pas qu'il y ait cette automatisation qui trouverait ça brutal et arbitraire. C'est le cas du syndicat de la magistrature ou du groupe de travail du Sénat que vous représentez ici, Laurence Rossignol. Alors, à votre avis, Marie-France Casali, je rappelle que vous êtes membre du Haut Conseil pour l'égalité entre les hommes et les femmes et porte-parole du collectif féministe contre le viol. Pourquoi faut-il changer cette loi ?
On a dit dans notre échange, et là-dessus on est tous d'accord, que la loi pose des repères d'interdits, Et dans ces repères d'interdit, il est interdit de porter des atteintes sexuelles, mais il n'est pas interdit de violer. D'une certaine façon, non, puisque on reconnaît un âge, on reconnaît que si on n'a pas pu établir violence, menace, surprise ou contrainte, l'agression sexuelle ou le viol dont il était question sera seulement une atteinte sexuelle, punissable moins lourdement. Quel bénéfice pour les agresseurs. Mais on ne reconnaît pas que on ne le reconnaît pas le viol comme étant un crime, donc une infraction particulièrement lourde dans notre code pénal, qui devrait entraîner, elle aussi, un âge minimum à partir en dessous duquel un enfant ne consent pas. Parce que dans notre définition pénale, finalement, le viol existe quand on établit que le consentement de la victime a été vicié. Est-ce qu'un enfant, une enfant, a réellement un consentement à un acte sexuel avec un majeur? C'est là que nous ne sommes pas d'accord.
Les juges le présument déjà dans la jurisprudence, comme je le disais tout à l'heure. Il y a toute la jurisprudence qui dit, mais simplement, il peut y avoir des cas dans lesquels, d'abord, des décisions sont prises, on peut parfois les critiquer, ça arrive, hein, je suis d'accord avec vous. Il peut y avoir des cas dans lesquels, effectivement, on n'avait pas les preuves suffisantes. Et encore une fois, nous, au syndicat de la magistrature, on estime qu'il faut tout faire pour recueillir la parole de la victime le plus tôt possible, pour qu'on puisse avoir toutes les preuves permettant à la fin d'entrer en voie de condamnation quand ça le justifie. Mais par contre, automatiser le viol, d'abord, le Conseil constitutionnel, encore une fois, je pense, ne le permettra pas. Si, c'est automatisé,
non.
Parce qu'il y aura à démontrer. L'élément intentionnel de l'auteur ne sera plus à démontrer.
Et oui, comme dans beaucoup d'infractions
non,
en droit pénal.
Le Conseil constitutionnel ne l'a jamais admis.
Bien sûr que si, il y a des jeux de présomptions en droit pénal qui sont fréquents.
Des présomptions simples, mais pas des présomptions irréfragables. Ça n'existe pas.
Si, il y a même des présomptions de culpabilité. Pour le propriétaire de la carte grise, par exemple, qui se voit reprocher des infractions,
vous parlez des contraventions, et en plus, on peut apporter la preuve contraire, toujours.
Non, pas pour le propriétaire de la carte grise. Le jeu de présomption existe en droit pénal.
On peut apporter la preuve contraire, et vous parlez de contravention, pas d'un crime puni de 20 ans de réclusion.
Je crois qu'il y a peu en droit pénal, je crois.
Alors, dans nos affaires qui nous choquent, c'est quand il y a une situation de viol d'enfant par un majeur, et que parce qu'on n'a pas réussi à établir violence, menace, surprise ou contrainte, ça s'appelle plus viol, ça s'appelle atteinte sexuelle.
En fait, c'est le cas pour toutes les infractions pénales. C'est-à-dire quand on n'arrive pas à prouver, la personne n'est pas condamnée.
Avec un enfant dominé par un majeur, c'est d'une injustice lourde.
La question.
Je voulais remarquer qu'avec
l'emprise est tout à fait profonde avec un majeur sur un mineur.
La jurisprudence en tient compte. Encore une fois, ce que je pense que là où on se trompe, c'est quand on analyse ces chiffres où la répression effectivement est faible par rapport au nombre de plaintes. On les analyse en disant que c'est parce que le juge ne retient pas le viol pour des enfants, etc. Alors que ce n'est pas le cas. La jurisprudence, moi, j'ai été au parquet, juge d'instruction, j'ai été en correctionnel aux assises pendant 20 ans, et je peux vous dire que de manière générale, les magistrats retiennent qu'un enfant ne peut pas valablement consentir, etc. Par contre, c'est pas dans la loi. C'est pas dans
Comment
la loi, mais c'est dans la jurisprudence. C'est la jurisprudence de la Cour de cassation.
Elle prévoit ça pour des enfants de moins de 6 ans.
En revanche, il y a beaucoup d'affaires dans lesquelles les faits sont contestés par l'auteur, qui dit même qu'il n'y a pas eu de relation sexuelle du tout, etc. Et c'est sur toutes ces choses-là qu'on doit progresser pour éviter effectivement que la réponse pénale ne soit pas au niveau où elle devrait être.
Mais soyons concrets. S'il y a un problème de preuve pour identifier s'il y a bien eu ou non une relation sexuelle. Qu'il y ait ou non une présomption ne changera rien.
Exactement.
On commence par là. Bien sûr que si, parce que toutes les discussions actuelles sont sur la question du consentement.
Non.
L'agresseur ne prend même pas la peine de discuter la réalité de l'acte. Si la réalité de l'acte n'est pas établie,
la présomption n'y changera rien.
Oui, mais
vous remarquerez que dans toutes ces affaires, aucun agresseur ne conteste l'acte.
C'est pas parce qu'on parle de deux affaires.
L'affaire de Pontoise,
je pense que l'affaire de Melun, la seconde affaire qui. Dans l'affaire de Meaux, on doit quand même se dire que les assises ne règlent pas tout. Puisque là, les assises et l'acquittement.
Oui.
Donc, arrêtons de sacraliser les peines. Ce qui est important, c'est la démarche de la justice. Je crois qu'on ne construit pas une politique pénale dans la défiance totale de la justice. Parce que je pense qu'aujourd'hui, dans la majorité des cas, les juges vont retenir les cardages. Et ce que propose le Sénat, dans le groupe de travail, c'est que l'écart d'âge soit retenu comme étant un critère de la présomption. Et donc, dans nos deux affaires qui nous intéressent, Meaux et Pontoise, dans ces deux cas-là, l'écart d'âge était tel entre la victime et l'auteur que la présomption de contrainte aurait été prise en charge par les juges.
Pourquoi ça n'a pas été fait à Pontoise et Meaux, alors qu'il y a déjà un texte qui prévoit que cet écart d'âge...
Meaux, c'est le juré.
Est-ce qu'on peut vraiment discuter d'affaires dont on n'a pas lu les dossiers?
La seule question, c'est que ce problème de l'écart d'âge ne résout rien.
Deuxième question, le discernement. Par ailleurs, dans la proposition que nous faisons, nous étendons jusqu'à 18 ans cette présomption de contrainte. Parce que ce dont nous sommes rendus compte, c'est que les seuils d'âge, et on a le problème en tout, hein, que ce soit pour les prestations sociales, les seuils, ou pour les seuils d'âge dans le code pénal, on a toujours ceux qui sont au-dessus, ceux qui sont un peu en dessous. Et nous avons fait au Sénat l'analyse que à 16 ans, on peut être confronté à un écart d'âge et à un état de sidération. Parce que qu'est-ce qu'on cherche, disons la vérité, qu'est-ce qu'on cherche à identifier avec la question du discernement? C'est ce qu'on a du mal à codifier en droit pénal, c'est la sidération, c'est-à-dire ce moment où la victime est totalement paralysée.
Sauf sa peau et ne bouge plus.
Bouge plus. Et c'est le moment où l'avocat de la défense va venir dire « Elle ne s'est pas défendue ».
Absolument. Hein,
donc on peut pas qualifier ça de viol. Donc, ce que l'on a cherché à faire entrer à travers la notion de discernement, c'est l'incapacité de la victime à se défendre. Et je crois, pour ce que j'ai lu dans l'affaire de Pontoise, mais j'ai lu des choses horribles sur Pontoise, j'ai lu l'avocat aujourd'hui qui dit « Je vais vous démontrer que ce n'est pas une oie blanche ». La petite fille, elle a 11 ans. C'est scandaleux comme propos. D'où l'intérêt de poser le principe que l'écart d'âge entre 11 ans et 28 ans est une présomption qui doit entraîner l'incrimination de viol pour l'auteur.
Mais alors justement, des relations sexuelles entre mineurs consentants, aujourd'hui, ça n'est pas réprimé par la loi. En cas d'âge minimal, 15 ans ou 13 ans, elle le serait. Et si les deux... si les deux étaient mineurs et qu'il ne peut pas y avoir de consentement en dessous de 15 ans ou 13 ans, on estimerait qu'il y a un violeur et un violé et que les deux sont à la fois violeurs et violés. Est-ce que ça ne serait pas le cas? Parce que s'ils n'ont pas de consentement, ils n'en ont pas non plus avec des mineurs.
Puisque les propositions qui sont faites sont de présomption d'absence de consentement sont applicables pour les auteurs majeurs. Donc que ce soit le Haut Conseil à l'égalité hommes-femmes ou notre proposition se résume au cas des auteurs majeurs.
Tout ce que j'entends sur savoir un enfant n'est jamais consentant, c'est quoi le consentement, etc. Je vois pas pourquoi un enfant serait consentant et saurait ce que c'est que le consentement avec un enfant de son âge, alors qu'il ne peut pas le savoir avec un majeur.
C'est pas un problème de logique.
C'est qu'on peut imaginer qu'entre mineurs il y ait des jeux entre adolescents ou des relations, et voilà. Et on est dans un cas de figure tout à fait différent d'une question d'une agression par un adulte. Donc c'est pour ça que cette réforme...
Un adulte est forcément agressif et un enfant ne peut pas l'être avec
le suivant. En matière de sexualité,
je peux vous donner un exemple intéressant aussi. Par exemple, imaginons avec une présomption comme celle que vous voulez, que vous voudriez mettre en œuvre, qu'une jeune femme de... 18 ans et demi, se fasse violer par un jeune garçon de 14 ans et demi. Avec une présomption irréfragable, en fait, on dirait que c'est la jeune femme qui a violé forcément, et on pourrait pas dire le contraire, l'adolescent.
Qui va déposer plainte dans ce cas de figure?
Les avocats du garçon de 14 ans, forcément.
Ils vont déposer plainte et dire que c'est la jeune femme de 14 ans qui...
Non, ça n'a pas de sens, votre exemple. La jeune femme ne pourrait pas aller déposer plainte, puisqu'on lui dirait, mais non, c'est vous. Vous qui avez violé en raison de la présomption irréfragable.
On peut faire un très long débat sur la meilleure rédaction et le meilleur outil dans le code pénal pour sanctionner les violences sexuelles commises par des majeurs sur des mineurs. La question principale, c'est est-ce que collectivement, notre société est prête à consacrer à la prévention, à l'éducation et à la sanction les moyens nécessaires pour protéger les mineurs. C'est voilà. ça le sujet. Moi ma petite distance sur les affaires de seuil de consentement, c'est que je ne crois pas aux formules pénales miracles. Voilà, je ne crois pas à ça. Donc je sais que demain, on peut voter le seuil de consentement à 13 ans ou à 15 ans et on prend rendez-vous dans 3 ou 4 ans. On sera autour d'une affaire, où on s'apercevra que des parents ont porté plainte contre le petit copain de leur fille ou de leur fils. Pour un écart d'âge restreint, l'un ayant 18 ans et demi et l'autre ayant 14 ans et demi, si on entretient 15 ans. Et là, on sera tout embêté en train de se dire, mon Dieu, c'est pas ça qu'on voulait. Donc, c'est quel est le regard collectif que nous portons sur les violences sexuelles contre les mineurs? Et jusqu'à présent, notre société, c'est à la fois un tabou, les violences sexuelles contre les mineurs, et un non-sujet. Il s'agit, avec ce débat-là, moi c'est pour ça que je ne suis pas totalement fixée. J'écoute tout le monde et je vois des inconvénients à chacune des solutions pénales qui me sont proposées.
On va vous laisser
réfléchir. En revanche, ce dont je suis sûre, c'est qu'il faut un grand plan de prévention de lutte contre les violences faites aux enfants. Que ce plan, je l'ai présenté l'année dernière, il était interministériel, et que j'attends du gouvernement qui a succédé au mien, qu'il le mette en place, parce qu'il y a un énorme sujet pour aujourd'hui et pour l'avenir pour tous ces jeunes.
On fait une pause et on continue. Faut-il instaurer un âge minimal en dessous duquel il n'y aurait pas de consentement sexuel, il y aurait forcément viol? C'est le débat de ce soir, puisqu'il oppose aujourd'hui des gens membres du gouvernement qui veulent préfère cette proposition de loi au syndicat de la magistrature ou au groupe de travail du Sénat. Alors vous, Marie-France Casalis, vous êtes membre du Haut Conseil pour l'égalité entre les femmes et les hommes. Vous avez la parole.
Oui, quand on regarde le nombre de mineurs qui ont été victimes de viol ou tentatives de viol, moi j'ai 124 000 filles et 30 000 garçons chaque année. 124 000 et 30 000, c'est énorme.
Attendez, 124 000 par an?
Par an.
Nouveau, nouvelle personne?
Oui. Donc, où en sommes-nous par rapport à la pénalisation de ces actes? C'est là que nous sommes d'accord, avec une augmentation des moyens pour une prévention, avec une augmentation de l'éducation dans les écoles. Depuis 1989, c'est dans la loi que tous les ans, on doit faire dans les écoles un programme de prévention. Ça s'est endormi, ça ne se réveille pas. Le plan interministériel qu'a lancé la ministre Madame Rossignol, il faut l'appliquer, on en a besoin. Mais en attendant, quelques repères clairs qui feraient du bruit dans notre société, ça aiderait un certain nombre d'agresseurs à retenir leurs gestes et à penser qu'ils risquent quelque chose de plus grave que d'être poursuivis pour atteinte sexuelle et risquer 5 ans, c'est-à-dire 2 ans.
Katia Debreuil, il est souvent fait allusion à une décision de la Cour de cassation qui aurait instauré au fond que ce serait en dessous de 6 ans en France qu'il n'y aurait absence totale de consentement. Au-dessus de 6 ans, il pourrait y avoir consentement. Qu'en est-il exactement?
Non, c'est pas le cas. En réalité, la Cour de cassation s'est prononcée dans une affaire où effectivement un mineur avait 6 ans en disant que dans ce cas de figure, le simple âge de la victime était la preuve qu'il ne pouvait pas y avoir de discernement et donc de l'absence de consentement éclairé évident. Mais la jurisprudence permet de l'étendre à des âges bien plus élevés que ça. Et en réalité, il y a depuis 2010 en plus une présomption qui existe dans la loi qui retient que lorsqu'il y a une différence d'âge et une relation d'autorité entre un mineur et un majeur, du coup, c'est une présomption qui existe déjà du coup dans la loi que le consentement ne pouvait pas exister.
S'il y a autorité de la part du majeur.
Voilà, mais ce que s'appliquent les juridictions au jour le jour, c'est qu'effectivement, en dessous d'un certain âge, il y a pas de discernement éclairé du mineur et cet âge, ce n'est pas 6 ans, il est plus élevé que ça. Là où se posent des questions parfois, c'est à l'âge de la préadolescence ou à des âges dans lesquels des jeunes mineurs sont déjà formés ou ont déjà des caractéristiques.
Dans le cas des deux affaires qui ont fait que le gouvernement a voulu réagir, les affaires de Meaux et de Pontoise, on avait affaire à chaque fois à une mineure
à
de 11 ans.
De 11 ans qui était très jeune, d'où l'émotion qu'on comprend bien. Il faut savoir aussi que par rapport à ces décisions qui sont prises, encore une fois, en considération à la fois de ce que la victime dit par rapport à son consentement ou non et de ce que l'auteur pouvait en percevoir. Ce n'est pas un juge tout seul qui prend une décision une fois pour toutes. Ce n'est pas laissé à la décision d'une seule personne. Il y a l'enquête qui est faite, qui est menée par le procureur de la République ou bien par le juge d'instruction. Ensuite, la décision de renvoi devant une cour d'assises, devant un tribunal correctionnel, si on retient finalement de poursuivre que pour l'atteinte sexuelle, elle peut être contestée devant la chambre de l'instruction. Il y a trois magistrats qui se penchent sur l'affaire.
Ensuite,
ça va soit au tribunal correctionnel où trois magistrats se penchent sur l'affaire, soit devant la cour d'assises où il y a les six jurés et les trois magistrats professionnels. Ensuite, si on n'est pas d'accord avec la décision de la cour d'assises, on peut faire appel. Donc, il s'agit à chaque fois de décisions qui sont revues par un très grand nombre de magistrats. Et donc, effectivement, on n'est pas dans l'arbitraire d'un juge qui, à un moment donné, va dire « mais non, là, ça ne tient pas, il n'y a pas suffisamment de preuves ». Ces choses-là sont des choses extrêmement complexes, qui sont que les professionnels, les magistrats regardent de façon extrêmement sérieuse. Et effectivement, il y a des fois des décisions qui paraissent incompréhensibles de l'extérieur parce qu'on ne connaît pas forcément le dossier. Après, je ne dirais pas que la justice ne peut jamais se tromper. On sait bien évidemment que c'est pas vrai. Il peut y avoir évidemment des décisions qui sont critiquables. Mais en tout cas, ce n'est pas simplement par le simple fait de constater qu'il y a eu une décision d'acquittement ou une poursuite pour atteinte sexuelle dans une affaire pour une atteinte sexuelle sur une mineure de 11 ans qu'on peut considérer que toute la justice passe son temps à dire oui, si le mineur finalement a plus de 5 ans, il pouvait consentir. Non, ça ne correspond pas à la réalité de ce qui se passe dans la justice actuellement.
Pascal Cazeneuve.
Oui, je suis en total désaccord avec ce qui vient d'être dit. Cette réforme, ce n'est pas seulement une réponse aux affaires de Pontoise et de Meaux, c'est un vrai problème de notre système juridique. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand on ouvre le code pénal actuellement, pour qu'il y ait viol et agression sexuelle, il faut une contrainte, et que même un enfant très jeune, on va avoir à prouver qu'il était contraint. Ça pourrait s'appliquer, si on suit le code pénal, ça pourrait s'appliquer pour un enfant de 2 ans. Donc on marche sur la tête. Et la Cour de cassation est venue pallier les défaillances du législateur en disant quand ce sont des enfants en très bas âge, on ne peut pas raisonnablement se poser la question du consentement. Et donc, cette jurisprudence de la Cour de cassation s'applique uniquement pour les enfants qui ont moins de 6 ans.
Non, c'est
une aberration d'aller penser qu'un enfant de 7 ans a contrario, pourrait consentir. Donc, la Cour de cassation a montré qu'elle avait conscience des défaillances de ce système législatif. Elle a créé du droit, ce qui n'est pas son rôle. Le juge a pallié la différence du législateur, mais c'est évidemment insuffisant parce qu'on ne peut pas appliquer cette absence de consentement uniquement aux mineurs de moins de 6 ans. Lorsqu'on raisonne en disant c'était un enfant de 8 ans ou de 9 ans et en considération de son jeune âge, on estime qu'il était forcément contraint, la Cour de cassation casse
non.
Parce que l'âge de 8 ou 9 ans, c'est une circonstance aggravante sur mineurs de moins de 15 ans.
Surtout depuis 2010, parce que la loi est intervenue.
Mais non, ça c'est sur l'écart d'âge. Moi, je parle d'autre chose.
L'écart d'âge, c'est la même chose.
Non, c'est pas du tout la même chose.
Un enfant très jeune a forcément un écart d'âge avec un adulte.
Mais c'est pas du tout la même chose. Et pourquoi à Pontoise et Meaux, on n'a pas appliqué l'écart d'âge alors?
Et parce que on était dans un âge plus limite.
Il nous reste 2 minutes. Alors 1 minute pour
ça, ce n'est pas la bonne réponse. Pardon.
1 minute pour Marie-France Casalis, un dernier mot, et 1 pour Laurence Rossignol.
Oui, non, juste, je rebondissais sur ce qui vient d'être dit. À Pontoise et Meaux, c'est pas qu'on est dans un âge plus limite, c'est qu'on n'a pas appliqué l'écart d'âge. Parce que, entre 11 ans et 28 ans, je pense qu'on n'a pas de doute, on n'a aucun doute sur l'écart d'âge. Ce sont 2 mauvaises décisions. Voilà.
Il faut le dire, c'est 2 mauvaises injustices. Donc il faut réformer. Voilà,
mais dont on ne connaît pas les tenants, les aboutissants, puisqu'on ne connaît pas le dossier.
Ce qu'on sait, c'est que ce qui a été défendu, c'est que, les auteurs ne savaient pas l'âge des victimes, et que, 2, les victimes avaient une apparence qui était supérieure à leur âge. Et ce qui est une question qu'on peut se poser, est-ce que l'auteur peut faire valoir qu'il a été trompé, en fait, par la victime sur son âge, ou est-ce que ce n'est pas audible? Je ne sais pas, c'est des questions de justice, enfin vraiment au sens premier du mot. Ce que je sais aujourd'hui, c'est qu'il faut réformer, ça c'est sûr, la loi telle qu'elle est aujourd'hui ne suffit pas. Il faut poser ensemble le fait qu'il y a une présomption de contrainte ou un interdit. Le débat parlementaire le dira, c'est le temps du Parlement, c'est le temps de l'échange et c'est important. On fait pas à la va-vite des choses comme ça parce que les conséquences sont importantes. Aujourd'hui, vous savez, vous dites la loi d'aujourd'hui, elle est scandaleuse. Un majeur de 18 ans et 3 mois qui a une histoire d'amour avec un mineur de 14 ans et 8 mois, il peut être condamné aujourd'hui pour atteinte sexuelle. La loi est quand même pas si laxiste que ça non plus. Arrêtons de faire comme s'il n'y avait rien.
Non mais
il y a atteinte sexuelle. Ce n'est pas une agression.
Du point de vue des parents, c'est pas évident. Du point de vue des parents, ça peut être une agression parce que ce sont les parents qui déposent. C'est pas forcément le mineur. Est-ce que si quelqu'un vient dire,
je suis sûr que ce serait bien suivi par la suite.
Merci.
On va travailler. Le Parlement va travailler. C'est un sujet subtil et il faut protéger les enfants des violences sexuelles.
Merci tous les quatre d'avoir participé à ce débat. On se retrouve juste après les informations présentées par Théo Manval avec Anna Karina, Alexandre Brandy qui a écrit « Il y a longtemps que je mens » et avec Olivier Cogne, on va revenir sur les Jeux Olympiques de Grenoble, les Jeux Olympiques d'hiver, c'était il y a 50 ans.